malgré tout. Pablo m'aime quand même.
France Langlois, vous écoutez CILS 107.9 FM à Victoria, votre radio communautaire.
L'Association historique francophone de Victoria a reçu une subvention du gouvernement du Canada dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour un projet intitulé Souvenance, reconnaissance. Ce projet vise la clientèle des 55 ans et plus, qu'ils soient ou non membres de l'association historique. Il se veut une activité de souvenance, histoire commune et histoire personnelle, laquelle activité nous permettra de reconnaître la contribution des leaders ayant œuvré à l'installation d'une communauté francophone et à la promotion de la francophonie en Colombie-Britannique. Gisèle Sanson, archiviste et chargée de projet à l'Association historique francophone de Victoria, et moi-même, Marie-Hélène Bourret, serons là pour animer les rencontres mensuelles. Jeux de mémoire, histoires oubliées, petits films, chansonnettes et activités de reconnaissance des piliers de notre communauté seront au rendez-vous. La première rencontre aura lieu le 9 mai au locaux de la Société francophone de Victoria, au 12-18 rue Langley, dès 17h30. Un léger goûter sera servi. S'il vous plaît, réservez votre place avant le 6 mai en téléphonant au 250-507-8305 ou en écrivant à mhbourret@commercialahfv.org. Bien que l'émission Parole d'aînés soit créée, animée et montée par des aînés, les sujets qu'elle aborde s'adressent à tous. Animée par Marie-Hélène Bourret, ce magazine de 60 minutes est présenté le samedi matin entre 9 et 10 heures et est repris le lundi dès 17 heures et le jeudi à compter de 13 heures. Au plaisir de vous y divertir et de vous renseigner.
Bonjour à tous les auditeurs francophones et francophiles, merci de syntoniser le 107.9 FM, c'est Alexis Gagnon au micro qui vous invite chaleureusement à monter à bord de votre émission d'info Le Débrief pour les 2 et 3 mai 2017. On commence dans un instant avec la revue de presse internationale. Bonne émission à tous. Écoutez l'émission Le Débrief. Mon nom est Alexis Gagnon. Voici votre revue de presse internationale pour les mardis 2 mai et mercredi 3 mai. États-Unis, la NSA relâche sa surveillance des courriels. C'est une nouvelle qui paraît dans le journal Le Monde. L'Agence de sécurité nationale américaine a cessé de scanner le contenu des courriels au départ ou à l'arrivée du territoire américain. C'est un article signé par Martin Hunter Sr. La National Security Agency, la NSA américaine, a annoncé vendredi 28 avril mettre fin à une méthode controversée de surveillance consistant à scanner le contenu de courriel au départ ou à l'arrivée du territoire américain. Cette agence de renseignement chargée de la surveillance électronique est autorisée par la loi à regarder à l'intérieur des messages reçus ou envoyés par des internautes sur le territoire des États-Unis afin d'y repérer des sélecteurs, comme elle les appelle, soit des mots-clés liés aux cibles qui l'intéressent. Cette interception était fondée sur une loi controversée, la section 702 du Foreign Intelligence Surveillance Act, le FISA. Suite à plusieurs incidents, des infractions à la loi, l'agence ne précisant pas lesquelles et à une évaluation exhaustive, la NSA va désormais uniquement intercepter les courriels entrant ou sortant des États-Unis lorsqu'ils sont envoyés ou reçus par une de ses cibles et non lorsque figurent dans leur contenu des mots-clés qui intéressent l'agence. Cela permettra, explique la NSA dans un communiqué, de réduire la probabilité d'acquisition de communications d'Américains qui ne sont pas en contact direct avec une des cibles de l'agence. Il s'agit d'un changement important dans l'architecture de la surveillance américaine et l'un des contre-coups des révélations du lanceur d'alerte Edward Snowden. Ce changement met fin à une pratique qui permettait la collecte de communications d'Américains sans mandat d'un juge, simplement pour avoir mentionné une cible étrangère, a réagi Ron Wyden, sénateur démocrate très en pointe sur les questions de surveillance, cité par le New York Times. Il ne s'agit pourtant que d'une toute petite portion des activités de la NSA, poursuit Le Monde dans cet article, c'est-à-dire les activités qui concernent l'interception des communications dans lesquelles un individu américain est impliqué. La NSA reste libre d'intercepter toute communication sur son territoire mettant en contact deux personnes localisées à l'étranger. Europe à présent dans les colonnes du média indépendant Mediapart, chargée du Brexit. Theresa May reste une énigme. C'est un article signé par la journaliste Amandine Alexandre dans Mediapart. Un sommet européen sur le Brexit se tient samedi à Bruxelles. La Britannique Theresa May a provoqué des élections anticipées dans l'espoir de renforcer sa position dans les négociations avec l'Union européenne. Mais la conservatrice reste évasive sur l'action qu'elle entend mener. Après 20 ans de carrière politique, l'atypique première ministre et chef du gouvernement demeure une interrogation, écrit Mediapart. Pendant de nombreuses années, Theresa May est restée inconnue du grand public. Depuis son arrivée à Downing Street, elle bénéficie d'un effet lune de miel auprès des électeurs car elle n'a pas encore pris de décision fondamentale, selon le politologue Richard Wynne Jones, interviewé dans cet article de Mediapart. Depuis qu'elle a succédé à David Cameron à la tête du gouvernement le 13 juillet 2016, Theresa May s'est consacrée exclusivement au Brexit. Alors qu'elle avait fait campagne au printemps dernier pour le maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne, l'ex-ministre de l'Intérieur britannique n'a pas tenté de contrer le désir de rupture de ses citoyens. Rupture d'avec les 27 pays de l'Union européenne exprimée par 52% des électeurs le 23 juin dernier. Au contraire, animée par le sens du devoir, Theresa May s'est convertie avec zèle à un Brexit dur. Au sein de l'élite du Parti conservateur, les origines familiales modestes de Theresa May font d'elle une outsider. Comme David Cameron, l'actuelle première ministre est diplômée de l'Université Oxford. La comparaison s'arrête là, toutefois. Avec cet ancien élève d'Eton et descendant de l'aristocratie britannique de 10 ans son cadet, Theresa May a peu de choses en commun. Elle n'a d'ailleurs jamais cherché à prétendre le contraire. Ministre de David Cameron pendant 6 ans, elle s'est toujours maintenue à l'écart du cercle des quadragénaires intimes du premier ministre et de son épouse Samantha. Même à la Chambre des communes, où elle siège depuis 1997, Theresa May n'a jamais entretenu de relations de copinage avec ses pairs, une pure perte de temps aux yeux de ce bourreau de travail qui préfère la fréquentation des salles de sport au commérage alcoolisé auquel s'adonnent volontiers certains membres du Parlement. En cela, la Première ministre est un spécimen rare. Elle est arrivée au sommet du pouvoir sans avoir cultivé de réseau au sein de son parti et en limitant les interactions avec la presse. Elle n'a pas beaucoup d'amis en politique. En d'autres circonstances, cela pourrait être problématique, mais parce qu'elle devrait obtenir une large majorité le 8 juin lors des élections générales, ça ne devrait pas lui causer trop de soucis, analyse Rosa Prince, auteure d'une biographie de la première ministre Theresa May, parue au début de l'année 2017. Un portrait signé par Amandine Alexandre dans le portail de Mediapart, chargé du Brexit, Theresa May reste une énigme. Et on va rester sur la question du Brexit. Les Européens mettent en scène leur unité face aux illusions de Theresa May. C'est signé par le journaliste Ludovic Lamant. Les dirigeants européens réunis samedi à Bruxelles se sont entendus sur les lignes directrices de la négociation du Brexit. Plusieurs d'entre eux s'inquiètent d'une Theresa May en plein déni de Brexit à l'approche des élections anticipées du 8 juin au Royaume-Uni. Pour une fois, les dirigeants européens, ils n'étaient que 27 en l'absence de la Britannique Theresa May, n'ont pas exposé leur division lors d'un sommet à Bruxelles, écrit le journaliste Ludovic Lamant. Il leur a fallu à peine quelques minutes samedi en début d'après-midi pour adopter les lignes directrices de la négociation du Brexit. Cette unanimité confère un mandat politique fort pour les futures négociations, s'est félicité le Polonais Donald Tusk à la tête du Conseil européen, l'institution qui doit organiser les grandes messes bruxelloises. Londres va tout faire pour diviser les 27 États membres de l'Union européenne et c'est un piège dans lequel il faudra éviter de tomber, a mis en garde Charles Michel, le premier ministre belge, à la sortie de ce sommet de samedi. Jusqu'à quand durera cette unité, demande Mediapart dans cet article. Elle s'accompagne en tout cas d'une vive inquiétude de la part de certains dirigeants européens qui s'est encore renforcée cette semaine, en particulier depuis le dîner qui s'est tenu mercredi soir à Londres entre Theresa May, la chef de l'exécutif britannique, et Jean-Claude Juncker, le patron de la Commission européenne. Aux yeux des Européens, Theresa May n'a pas pris la mesure de ce que signifierait le départ du Royaume-Uni, ce qui augure des discussions très compliquées d'entrée de jeu, toujours selon la version dominante à Bruxelles. Alerté par Jean-Claude Juncker jeudi matin, qui lui a débriefé son dîner, Angela Merkel a exhorté son homologue britannique dès jeudi à ne pas se faire d'illusions sur les conditions de sortie de la Grande-Bretagne. Wolfgang Schäuble, l'influent ministre des Finances de Merkel, en a rajouté une couche vendredi. « Rien ne sera gratuit. There is no free lunch », a-t-il averti en direction des Britanniques. Donc voilà, cet autre article sur le Brexit, toujours dans le portail Mediapart, sous la plume de Ludovic Lamant. Et pour rester sur le dossier du Brexit, cette dépêche qui paraît dans le fil de l'agence Reuters, l'Union européenne se ligue pour un Brexit à son avantage, prétend Theresa May. La première ministre britannique Theresa May a prévenu mardi les électeurs britanniques que l'Union européenne se liguait pour obtenir le divorce le plus avantageux et a déploré qu'on l'accuse d'entretenir des illusions sur l'issue des négociations sur le Brexit. Après avoir été accusé la semaine dernière de sous-estimer la complexité des négociations avec l'Union européenne, la première ministre britannique Theresa May a expliqué mardi que la seule façon d'obtenir un bon accord pour la Grande-Bretagne serait de lui accorder la victoire lors des élections législatives anticipées du 8 juin. Plus que jamais, a-t-elle dit, nous avons besoin d'une direction forte et stable. Cette déclaration est faite dans une tribune qu'elle a publiée dans le journal Western Morning News avant d'entamer une tournée électorale dans le sud-ouest de l'Angleterre. Les négociations qui s'annoncent, a-t-elle dit, seront difficiles. De l'autre côté de la table, 27 États membres de l'Union européenne sont unis dans leur détermination à obtenir un accord qui leur soit favorable. Nous avons besoin de montrer la même unité chez nous pour faire en sorte d'obtenir un accord qui préserve également les intérêts nationaux britanniques. La porte-parole de Theresa May a déclaré que cette dernière était confiante dans le succès du Brexit et qu'elle abordait les négociations d'une manière constructive et avec une bonne dose de bonne volonté. Voilà la dépêche qui paraît dans Reuters sous le titre « L'Union européenne se ligue pour un Brexit à son avantage », prétend Theresa May. Et du côté du Moyen-Orient, à présent dans cette revue de presse internationale, le Hamas accepte un État palestinien dans les frontières de 1967. Le Hamas s'est dit lundi favorable à l'établissement d'un État palestinien de transition à l'intérieur des frontières héritées de la guerre des six jours en 1967. Ce découpage est celui prôné par le Fatah, dirigé par le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas et rival du Hamas, qui administre la bande de Gaza depuis 10 ans. Le Hamas lutte pour la libération de toute la Palestine, mais est disposé à soutenir un État dans les frontières de 1967, sans toutefois reconnaître Israël ou céder le moindre droit, a déclaré à Doha le chef politique du mouvement islamiste Khaled Meshaal. Lors du conflit éclair il y a 50 ans, en 1967, conflit qui avait opposé Israël à d'autres pays arabes, Israël avait occupé Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est. L'État hébreu s'était retiré de la bande de Gaza en 2005. On poursuit cette revue de presse internationale du côté du Venezuela. Nicolas Maduro convoque une assemblée constituante citoyenne. C'est dans le journal Le Monde. Le président vénézuélien a prononcé un discours devant ses partisans lundi 1er mai, alors que la manifestation de ses opposants a été bloquée à l'aide de gaz lacrymogène. À l'occasion de la célébration officielle du 1er mai, le président vénézuélien Nicolas Maduro a annoncé la convocation d'une assemblée nationale constituante. « J'ai décidé, a-t-il dit, de convoquer le pouvoir constituant originaire pour construire la paix dont la République a besoin », a-t-il déclaré aux travailleurs chavistes venus exprimer leur soutien à la révolution bolivarienne à Caracas sur l'avenue Bolivar. L'opposition dénonce une manœuvre politicienne du pouvoir, souciée de gagner du temps. Sur Twitter, l'ex-candidat à la présidentielle Enrique Capriles Radonski a ainsi appelé les opposants à se mobiliser face à cette fraude constituante, a-t-il dit. L'opposition est dans la rue depuis un mois pour exiger un calendrier pour les élections de gouverneur qui aurait dû avoir lieu en 2016, donc un calendrier pour les municipales et pour la présidentielle. Cette opposition réclame aussi la libération des prisonniers politiques, le respect de l'Assemblée nationale où les opposants sont majoritaires et l'autorisation de l'aide humanitaire internationale. Extrême-Orient, maintenant, dans cette revue de presse internationale, Pékin exige l'arrêt du bouclier antimissile américain en Corée du Sud. La Chine a exigé mardi l'arrêt du bouclier antimissile américain en Corée du Sud, dont Washington a annoncé la veille la mise en service, tout en saluant les ouvertures de Donald Trump en direction de la Corée du Nord. Pékin dénonce depuis des mois la mise en place du bouclier TAD, qui est un acronyme signifiant Terminal High Altitude Area Defense. Donc Pékin condamne la mise en place de ce bouclier annoncé par Washington l'an dernier en réponse au programme nucléaire et balistique de la Corée du Nord. La Chine souligne que ce dispositif couvre une partie de son territoire et entrave sa propre force de dissuasion. Nous sommes opposés au déploiement du système TAD en Corée du Sud, a déclaré la Chine. Nous appelons les parties en présence à arrêter ce déploiement immédiatement et nous prendrons fermement les mesures nécessaires pour défendre nos intérêts. Quelques heures plus tôt, le colonel américain Rob Manning, porte-parole des forces américaines en Corée du Sud, avait annoncé que le TAD était désormais opérationnel avec la capacité d'intercepter les missiles nord-coréens. Un autre responsable américain avait toutefois indiqué à l'AFP, sous couvert de l'anonymat, que le système TAD n'avait pas atteint sa capacité initiale d'interception. Retour sur l'Europe dans cette revue de presse internationale. Après le nucléaire, comment l'Allemagne se prépare à une sortie du charbon? C'est dans le portail du média indépendant Bastamag, sous la plume de la journaliste Rachel Knabel. La part du charbon dans le mix énergétique allemand n'a pas augmenté depuis 2011, écrit-elle. Cette part de charbon reste en revanche très élevée, à 40% de l'électricité produite. Mais les choses changent, écrit la journaliste de Bastamag, et le débat sur une sortie de ce combustible fossile, incontournable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du pays, monte en puissance. Avec une question qui revient toujours, quel avenir pour les 29 000 employés de ce secteur? Bien qu'extrêmement polluante, l'Allemagne tire de cette énergie au charbon une grande partie de son électricité, soit environ 40%. Et ce 40% est formé de 18% de houille et de 23% de lignite, deux types de charbon différents. De nouvelles mines de lignite doivent même entrer en fonction dans les prochaines années en Allemagne. Pour autant, il est faux d'affirmer que le pays a accru sa consommation de charbon en conséquence de la décision prise en 2011 après Fukushima, décision qu'avait prise Angela Merkel donc de se retirer du nucléaire, donc de fermer les centrales nucléaires allemandes. En 2016, le nucléaire en Allemagne ne représente plus que 13% de la production énergétique du pays. Dans les faits, ce sont les énergies renouvelables, écrit Bastamag, qui ont compensé depuis 2011 la baisse de la part du nucléaire. En attendant, toutefois, le poids du charbon reste un problème environnemental et climatique majeur en Allemagne. Aujourd'hui, 80% des gaz à effet de serre émis par la production électrique en Allemagne proviennent de ce combustible. Or, l'Allemagne s'est engagée à réduire de 40% ses émissions de GES d'ici 2020 et de 90% d'ici 2050 par rapport au niveau de 1990. On sait que les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévus pour 2020 ne seront pas atteints sans l'arrêt de centrales au charbon, a rapporté Tina Loffelsen, experte en politique énergétique de la branche allemande des Amis de la Terre. L'administration allemande pour l'environnement a d'ailleurs alerté en janvier dernier sur ce risque. Pour respecter les engagements climatiques du pays, l'Allemagne devra réduire de moitié sa production d'électricité issue du charbon d'ici à 2030. Donc un article fascinant sur la migration de l'Allemagne vers les énergies renouvelables. C'est dans le portail Bastamag sous la plume de Rachel Gnabel. Alors voilà qui complète cette revue de presse internationale. On va s'acheminer bientôt dans la revue de presse nationale dans quelques instants. Restez à l'écoute de l'émission Le Débrief. Merci d'être à l'écoute de l'émission Le Débrief des mardis 2 mai et mercredi 3 mai. Nous entamons à présent la revue de presse nationale. Stéphane Dion, boudé à l'Union européenne. C'est le titre de cet article signé par Hélène Buzetti dans le journal Le Devoir. Stéphane Dion ne portera finalement pas deux chapeaux diplomatiques, écrit-elle. Ottawa a annoncé lundi que l'ancien ministre et député de Saint-Laurent sera comme prévu ambassadeur du Canada en Allemagne, mais seulement envoyé spécial auprès de l'Union européenne. Suite à des consultations menées auprès des partenaires européens, il a été convenu que cette nomination sera le meilleur moyen de donner suite à l'engagement du Premier ministre de resserrer les liens qui unissent le Canada et l'Europe, est-il écrit dans le communiqué de presse annonçant les rôles de Stéphane Dion. Alors la journaliste Hélène Buzetti écrit ensuite « Nous comprenons entre les lignes que l'Union européenne a refusé la demande d'agrément du Canada pour Stéphane Dion en tant qu'ambassadeur en même temps auprès de l'Allemagne et aussi auprès de l'Union européenne à Bruxelles. » Alors, l'Union européenne n'accepte pas un titulaire à temps partiel, a écrit Hélène Buzetti dans cet article. Car telle était la volonté première du gouvernement libéral de Justin Trudeau, nommer Stéphane Dion ambassadeur autant à Berlin qu'à Bruxelles. Il n'est pas coutume qu'un pays étranger refuse carrément la nomination d'un ambassadeur chez lui, mais l'absence de réponse de l'Union européenne, alors que le premier ministre annonçait cette nomination il y a maintenant 3 mois, laissait transparaître l'inconfort de l'Europe face à cette double nomination. Le poste d'envoyé spécial est tout aussi inhabituel. Le spécialiste et ex-conseiller de Stéphane Dion, Jocelyn Coulon, indique qu'à sa connaissance, c'est la première fois que le Canada se dote d'un tel poste. Le communiqué de presse dit que son poste consistera à assurer la cohérence de l'ensemble des activités des missions diplomatiques canadiennes sur le vieux continent. Et dans la presse canadienne, on revient également sur cette étrange nomination double de Stéphane Dion. Le double rôle diplomatique de Stéphane Dion est remis en question. C'est le titre de cet article de Mylène Crête. La double affectation de Stéphane Dion à titre d'ambassadeur d'Allemagne et d'envoyé spécial auprès de l'Union européenne et de l'Europe fait sourciller l'opposition à Ottawa. Députés conservateurs et néo-démocrates ont multiplié les questions sur le double rôle que l'ex-ministre des Affaires étrangères sera bientôt appelé à jouer sur le continent européen. Le premier ministre Justin Trudeau a confirmé lundi la nomination de l'ex-ministre des Affaires étrangères au poste d'ambassadeur du Canada en Allemagne et d'envoyé spécial auprès de l'Union européenne et de l'Europe. Un rôle revu à la baisse puisque Stéphane Dion devait au départ cumuler 2 postes d'ambassadeur. En janvier, lorsque Stéphane Dion a été écarté du Conseil des ministres, il a d'abord hésité à accepter le rôle de diplomate que lui tendait Justin Trudeau. Il y a 3 mois, il a finalement accepté de devenir à la fois ambassadeur en Allemagne et ambassadeur auprès de l'Union européenne. Stéphane Dion a affirmé que le rôle d'envoyé spécial auprès de l'Union européenne et de l'Europe lui convenait mieux et qu'il permettrait au Canada d'avoir une véritable approche européenne. Donc cet article paraît dans le fil de la presse canadienne. C'est signé par la journaliste Mylène Crête. Toujours à Ottawa, un autre article signé par Hélène Buzetti dans les colonnes du journal Le Devoir. L'abandon de 2 modifications ne suffit pas à calmer l'opposition, c'est le titre. La trêve espérée par le gouvernement libéral à Ottawa n'aura visiblement pas lieu. L'opposition conservatrice et néo-démocrate n'est pas apaisée par le recul de Justin Trudeau en matière de réforme parlementaire et entend poursuivre son obstruction à la Chambre des communes. Le NPD et les conservateurs sont encore unis, plus unis que jamais pour se battre contre cela, a lancé en point de presse la leader conservatrice en chambre, Candice Bergen. Madame Bergen n'a pas voulu donner un avant-goût de ce qui attendait le gouvernement autrement qu'en rappelant qu'il y a des tactiques procédurales que nous pouvons utiliser pour les empêcher. Nous continuerons de recourir à tous les outils à notre disposition pour faire passer notre message et leur faire savoir que c'est inacceptable. Nous discutons de nos options, a renchéri de son côté l'homologue néo-démocrate Murray Rankin. Les 2 partis étaient outrés des changements aux procédures parlementaires envisagées par le gouvernement Trudeau, notamment la fin du pouvoir de l'opposition de perturber les débats en les prolongeant, ou encore l'abolition des demi-séances du vendredi. Dimanche, le gouvernement a annoncé qu'il renonçait à ces 2 changements pour n'aller de l'avant qu'avec ce qu'il avait promis en campagne électorale en 2015. Cela ne semble pas suffisant pour calmer l'opposition. Toujours dans Le Devoir, cette fois, c'est signé par Marie Vastel, un article intitulé « Les groupes progressistes invitent leurs troupes à appuyer Michael Chong ». Michael Chong est le grand favori des progressistes de centre-gauche dans la course à la chefferie conservatrice. 3 groupes ayant recruté des milliers de membres, comme le révélait Le Devoir récemment, recommandent ces jours-ci à leurs sympathisants d'appuyer le candidat progressiste du lot. La campagne « Une opposition tolérante », comme elle est appelée, estime avoir encouragé quelques 5000 personnes à devenir membres du Parti conservateur pour pouvoir voter pour le prochain chef. Lundi matin, le groupe donnait des recommandations de vote à ses sympathisants. En premier choix, Michael Chong, suivi de Lisa Raitt, Andrew Saxton, Aaron O'Toole et Deepak O'Brien. Selon cette recommandation, M. Chung est le plus en mesure de défier le gouvernement libéral. Il est, selon ce groupe, le seul candidat avec une politique environnementale crédible et son plan pour moderniser le Parlement et bonifier l'indépendance des députés profiterait à tous les Canadiens. Toujours à propos de cette course à la direction du Parti conservateur pour trouver un successeur à Stephen Harper, Maxime Bernier, premier pour le financement. C'est signé par John Bryden dans la presse canadienne. Les candidats à la direction du Parti conservateur ont récolté 4,6 millions en dons. Le député de la Beauce, Maxime Bernier, figurant au premier rang avec 1 031 000 $, tout juste devant le candidat vedette Kevin O'Leary, qui s'est pourtant retiré de la course la semaine dernière et a donné son appui à Maxime Bernier. Alors, cet article indique que Kevin O'Leary avait réussi à récolter 1 029 000 $. Les deux meneurs pour les contributions sont suivis par Kelly Leach qui a récolté 1,5 million de dollars. Erin O'Toole a récolté un peu plus de 400 000 dollars. Viennent ensuite Andrew Scheer et Michael Chung et ceux-ci sont suivis par Pierre Lemieux, Lisa Raitt et Brad Trust. Dans la presse canadienne, un article sur le ministre de la Défense, Sajjan, reconnaît s'être attribué à tort une victoire militaire. Le premier ministre Justin Trudeau a résisté lundi à la colère des partis de l'opposition qui réclament la démission du ministre de la Défense, Harjit Sajjan, accusé d'avoir minimisé le rôle de ses anciens collègues des forces armées canadiennes dans une bataille qui a eu lieu en Afghanistan. Plus tôt dans la journée, M. Sajjan s'est excusé une fois de plus pour s'être décrit comme l'architecte de l'opération Méduse, l'une des batailles les plus sanglantes et les plus importantes menées par le Canada en Afghanistan en 2006. Les conservateurs demandent au président de la Chambre, Jeff Regan, de déterminer si le ministre a induit les députés en erreur lorsqu'il a blâmé le précédent gouvernement conservateur pour la réduction des avantages fiscaux accordés aux militaires canadiens déployés au Koweït. Le nouveau Parti démocratique, le NPD, quant à lui, a aussi critiqué le ministre de la Défense et a demandé une nouvelle enquête sur le mauvais traitement des détenus afghans, ce que Harjit Sajjan a refusé de faire l'an dernier. Justin Trudeau indique cet article s'est porté à la défense de son ministre. Une nouvelle qui nous parvient du Québec, à présent c'est dans le journal La Presse sous la plume du journaliste Martin Croteau. Le DPCP réclame une enquête criminelle sur les propos d'Yves Francoeur. Alors le DPCP c'est le directeur ou la directrice des poursuites criminelles et pénales. Je vous lis quelques lignes de cet article. La directrice des poursuites criminelles et pénales, la DPCP, Annick Murphy, a réclamé mardi une enquête criminelle sur les allégations du président du syndicat des policiers de Montréal, Yves Francoeur. Rappelons ici que Yves Francoeur avait soutenu la semaine dernière qu'une enquête criminelle sur deux élus du Parti libéral du Québec était bloquée en haut lieu depuis 2012, alors que des accusations auraient dû être déposées. L'un des deux députés du PLQ siégerait d'ailleurs toujours à l'Assemblée nationale à Québec. Dans un communiqué émis mardi en matinée, Maître Murphy, donc la directrice des poursuites criminelles et pénales, a annoncé avoir demandé au sous-ministre de la Sécurité publique de se pencher sur les propos du président de la Fraternité des policiers de Montréal, donc celui qui a fait ces déclarations fracassantes. Maître Murphy a affirmé en commission parlementaire ne pas détenir de dossier correspondant à celui décrit par Yves Francoeur. Elle a réclamé aujourd'hui mardi l'intervention de la police. Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, a affirmé jeudi dernier qu'il y a une impression d'immunité libérale dans nos institutions, a-t-il déclaré. Ici se conclut la revue de presse nationale. Le débrief vous revient dans quelques secondes avec votre nouvelle francophone du jour. À tout de suite! We'll be right back. Après les revues de presse internationales et nationales, voici votre rubrique francophonie pour les 2 et 3 mai. La nouvelle nous arrive du Yukon, c'est publié sur le portail de Radio-Canada. 35 millions pour la francophonie du Yukon. Les franco-yukonais se réjouissent au lendemain du dépôt du budget du gouvernement territorial du Yukon qui prévoit des investissements de près de 35 millions de dollars dans les prochaines années pour la francophonie. Attendue depuis longtemps, la construction de la nouvelle école secondaire francophone figure au budget territorial avec 8 millions de dollars cette année et 12 millions de dollars l'an prochain. L'annonce a été confirmée vendredi dans un communiqué conjoint du gouvernement du Yukon et de la commission scolaire francophone. Prudent, le président de la commission scolaire francophone, Jean-Sébastien Blais, attend tout de même la première pelletée de terre avant de crier victoire. On croise les doigts, mais je pense que ce qu'on a vu hier dans les prévisions budgétaires du gouvernement du Yukon démontre une volonté d'aller de l'avant avec un calendrier de travail pour une ouverture en 2019, a-t-il commenté. L'école sera située sur le terrain de l'ancienne école F.H. Collins à Whitehorse, dont la démolition n'est pas terminée. Une date pour le début des travaux n'a pas non plus été annoncée. Le gouvernement dit poursuivre des discussions confidentielles avec la commission scolaire francophone. Par ailleurs, le Yukon attend toujours une décision d'Ottawa pour financer l'aspect communautaire d'un centre scolaire communautaire. L'entente bilatérale Canada-Yukon pour les services en français du gouvernement territorial est toutefois bel et bien au budget. 14 millions de dollars au cours des 3 prochaines années, soit 3 fois le budget actuel. Nous sommes très contents, surtout que ça va toucher à la santé, un domaine prioritaire depuis les débuts de l'association franco-yukonaise il y a 35 ans, a expliqué la représentante de l'association, Angélique Bernard. Maintenant, la santé en français, ça va être intéressant, il va y avoir plus de postes bilingues, il va y avoir l'étude pour la création d'un centre de santé bilingue en soins primaires, qui est quelque chose qu'on demande depuis longtemps également. Donc voilà pour cette nouvelle francophonie du jour. C'était votre information à thématique francophone pour les 2 et 3 mai dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info quotidien. Merci de demeurer à l'écoute de votre radio communautaire francophone locale. écoutions à l'instant Sarah Bourdon avec une pièce intitulée « Laissez aller ». C'est Alexis Gagnon en votre compagnie jusqu'à 17h dans l'émission Le Débrief. Merci d'être à l'écoute. C'est le moment de passer aux nouvelles de Colombie-Britannique. On va tout de suite entamer cette revue de presse provinciale pour les 2 et 3 mai. L'Union des chefs autochtones appelle à voter contre Christy Clark. C'est un texte qui paraît dans le portail britanno-colombien de Radio-Canada. L'Union des chefs autochtones de la Colombie-Britannique, l'UBCIC, prend officiellement position à 8 jours du scrutin provincial en demandant aux britanno-colombiens de voter pour n'importe qui, sauf les libéraux de Christy Clark. Le groupe estime que la province a besoin de changements après 16 ans de gouvernement libéral et exprime également sa lassitude à l'égard de Christy Clark. Un troisième mandat pour Christy Clark et le Parti libéral serait désastreux pour les autochtones et les non-autochtones de toute la province, déclare ce groupe en début de semaine dans un communiqué. Une porte-parole de la Première Nation Musqueam, Cecilia Pointe, considère de son côté qu'il est urgent d'agir. En tant qu'Autochtone, je ne m'engage généralement pas dans la politique coloniale, mais c'est une urgence actuellement. Nos enfants sous la tutelle de l'État meurent à un rythme rapide. Je suis vraiment dérangé par les réponses banales et irrespectueuses que Christy Clark donne toujours au sujet de l'emploi et de l'économie, a-t-elle lancé à la journaliste de Radio-Canada. Le grand chef Stuart Phillip de l'UBCIC estime que les relations se sont détériorées entre les Premières Nations et la province depuis l'arrivée au pouvoir de Christy Clark en 2012. Il y a eu un changement spectaculaire par rapport aux efforts entrepris par l'ancien premier ministre pour la réconciliation. La première ministre Christy Clark a renoncé à plusieurs engagements avec les Autochtones. Elle est devenue complètement redevable envers les grosses industries et les pétrolières et s'est consacrée à établir ses priorités au détriment des Autochtones et des Britanno-Colombiens, a soutenu le chef autochtone. Le grand chef Stuart Phillip ne recommande pas explicitement de voter pour un parti en particulier, mais avance que le nouveau parti démocratique, le NPD, montre une meilleure compréhension des questions autochtones. Les réponses du NPD à notre questionnaire étaient les plus complètes et montraient clairement des connaissances et la compréhension de la complexité des enjeux en matière de loi constitutionnelle et de la multitude de décisions de la Cour suprême, indique le communiqué et le chef Stuart Phillip. Donc, vous trouverez l'article complet sur le portail de Radio-Canada. L'Union des chefs autochtones appelle à voter contre Christy Clark. C'est un texte signé par Fanny Bédard. On reste sur le portail de Radio-Canada. La météo en cause dans le naufrage au large de Tofino. La Gendarmerie royale du Canada considère que la météo a joué un rôle dans le naufrage d'un catamaran de 8 mètres de long qui a causé la mort de 2 Albertains au large de Tofino dimanche. Les 5 naufragés du bateau de pêche ont passé 90 minutes dans les eaux froides près de l'île Bartlett, une île de la côte britanno-colombienne, avant d'être secourus. À ce moment de l'année, la température de l'eau oscille entre 8 et 10 degrés Celsius. Selon la GRC, les 2 victimes albertaines étaient des hommes âgés de 32 et 42 ans. Les 3 survivants sont dans un état stable. La mairesse de Tofino, Josie Osborne, soutient que la communauté est passée à l'action dès qu'elle a reçu un appel de détresse vers 13h20. Elle se félicite des efforts des secouristes professionnels, des capitaines de bateaux et des pilotes de compagnies aériennes privées qui ont participé au sauvetage des victimes. L'équipe du Centre de coordination des opérations de sauvetage de Victoria affirme qu'une enquête sera menée pour comprendre pourquoi le sauvetage a pris autant de temps. Selon le JRCC, le centre de sauvetage, le bateau est toujours partiellement submergé. Les causes du naufrage sont inconnues pour le moment. L'accident s'est produit près de l'endroit où le Léviathan avait chaviré en 2015. 6 personnes avaient alors perdu la vie au cours de cette tragédie. La mairesse Osborne de Tofino dit que le secteur est connu par les marins comme étant dangereux. C'est à l'extérieur de la baie Clayocott. Alors, à tout moment, quand on est éloigné en mer, c'est certain qu'il y a des risques, a-t-elle déclaré. Elle ajoute que depuis le naufrage du Léviathan, les Premières Nations et le personnel de secours sont mieux coordonnés et formés pour répondre aux urgences. 231 034 Britanno-Colombiens ont déjà voté, nous informe Radio-Canada sur son portail. Élections BC indique que 231 034 Britanno-Colombiens ont profité des deux premiers jours de vote par anticipation la fin de semaine dernière pour dire qui devrait, selon eux, diriger la province. L'organisme qui s'occupe des élections en Colombie-Britannique a organisé 6 jours de vote par anticipation au total pour ce scrutin, comparativement à 4 lors des dernières élections en 2013. Les électeurs peuvent de nouveau voter par anticipation le mercredi 3 mai, le jeudi 4 mai, le vendredi 5 mai et le samedi 6 mai. Tous les bureaux de vote par anticipation sont ouverts de 8h à 20h heure locale. Tremblement de terre au Yukon, des édifices fermés aujourd'hui mardi, c'est rapporté par Radio-Canada. Les résidents de Whitehorse au Yukon et du nord de la Colombie-Britannique ont connu une journée difficile après qu'une série de séismes eurent secoué la région lundi. Tout au long de la journée, une centaine de répliques ont suivi les deux séismes principaux. L'organisation des mesures d'urgence décrivait la situation comme étant en constante évolution. La directrice des communications de l'organisation, Aisha Montgomery, explique que l'école de Ross River devra demeurer fermée jusqu'à ce que des évaluations d'ingénierie aient été effectuées pour déterminer si des fissures dans sa structure existaient déjà avant les séismes. Quelques fissures superficielles ont été identifiées à l'école de Haines Junction, mais elle restera ouverte. À l'école Elijah Smith, seule la bibliothèque demeurera fermée en raison de fenêtres endommagées. Les fissures extérieures et intérieures qui lézardent l'édifice Lynn au centre-ville de Whitehorse imposent sa fermeture jusqu'à nouvel ordre. L'édifice abrite de nombreux bureaux du gouvernement territorial. Le ministère canadien des Ressources naturelles a indiqué que l'épicentre du premier tremblement de terre de magnitude 6,2 qui avait frappé vers 5h30 lundi était situé à environ 127 km au sud-ouest de Whitehorse au Yukon et à 77 km au nord-ouest de Skagway en Alaska. Et sinon, plus près de chez nous, dans le portail vicnews.com, le portail du média local Victoria News, on nous informe que les premières pistes cyclables protégées sont désormais ouvertes ici dans le centre-ville de Victoria. Alors, cela signifie des changements à la signalisation, bien sûr, et des changements aux habitudes des automobilistes. D'ailleurs, la ville a déployé des employés municipaux pour bien accompagner l'entrée en fonction de ces nouvelles pistes cyclables protégées. Ça s'est passé aujourd'hui, mardi. Vous trouverez l'article sous la plume de la journaliste Kendra Wong dans le portail vicnews.com. Alors, c'est une bonne nouvelle pour les cyclistes et pour le transport actif en général que l'entrée en fonction de ces pistes cyclables protégées par un petit muret. On peut penser notamment à la piste de la rue Pandora au centre-ville. Autrement, je tiens à vous signaler un article paru sur le blog Nouveau qui fait état de la conférence qu'a donnée Elon Musk à Vancouver il y a quelques jours, une conférence qui était prononcée dans le cadre des TED Talks, donc les conférences TED, qui ont vocation à disséminer des idées en technologie et en science. Alors, Elon Musk, qui est PDG de la compagnie Tesla Motors et de SpaceX, souhaite apporter le transport à un autre niveau, nous informe le blog Nouveau. Sommes-nous rendus aux voitures volantes, s'interroge le blog. C'est en effet le sujet de la conférence d'Elon Musk à Vancouver. Celui-ci a parlé de voitures volantes autonomes. Il a aussi parlé de ses projets de tunnels entre grandes villes, des tunnels qui permettraient aux véhicules de circuler à des vitesses vertigineuses et donc de rallier des villes très distantes les unes des autres. Alors, si vous connaissez la personnalité d'Elon Musk, vous savez que c'est un visionnaire un peu mégalomane. Vous trouverez le compte-rendu francophone de sa conférence TED Talk sur le portail Nouveau, N-O-O-V-O. C'est avec cette actualité qu'on complète le tour d'horizon des nouvelles provinciales dans l'émission Le Débrief. Mon nom est Alexis Gagnon. Merci d'être à l'écoute de CILS FM 107,9, votre radio communautaire dans la grande région de Victoria. On fait une courte pause. Au retour, on s'intéresse à la météo des prochains jours. Restez à l'écoute.
sur le dos des vagues, les rayons du soleil se brisent, on dirait des étoiles, myriades de points d'énergie, d'une beauté sans égale, mini-soleil aquatique. Qui glisse et parade en formation quelque peu chaotique. Et le bruit des vagues, c'est mon oreille gauche qui lui sert soudain de rivage. Un bruit difficile à saisir, chanson primordiale, douée d'un pouvoir inouï. Le grand mystère sauvage qui brise le cœur humain, le guérit. Quelle splendeur, être sur le bord de l'eau, d'une entité pareille, infiniment subtile, d'une profondeur. Sont nos larmes. Et puis sur ma langue, l'océan réveille en moi des images caressantes. Partir au sud en famille, tout le monde en vacances. Passer deux semaines en camping, l'ivresse de l'enfance, d'une insouciance qui rend mélancolique. Enfin j'y entre, c'est d'abord à petite échelle que je ressens l'onde d'une pulsation fantastique, un cœur immense qui gronde, tonnerre sous-marin lascif qui monte et qui tombe et frappe mes eaux de mortel en péril. Quelle splendeur.
Être sur le bord de l'eau, c'est une pièce de la formation de Victoria, Combustion lente, qu'on écoutait à l'instant sur les ondes de CILS FM 107,9. Vous êtes toujours dans l'émission Le Débrief en compagnie d'Alexis Gagnon. Merci d'être à l'écoute. On va se pencher sur les données météo à présent, météo des prochains jours dans la grande région de Victoria. On va tout de suite se rendre sur le portail de météo.gc.ca, le portail d'Environnement Canada, pour consulter les prédictions du moment. Alors, Environnement Canada nous indique que nous avons actuellement 12 degrés au mercure à l'aéroport de Victoria. Ça demeure nuageux en soirée. Le mercure descendra à 9 degrés avec un peu de pluie. Demain, mercredi, on aura un peu de tout, du soleil, des nuages et quelques averses vraisemblablement si l'on en croit les prévisions d'Environnement Canada. Donc, demain, 15 degrés. 30% de probabilité d'averse et le soleil succédera aux nuages par intermittence au cours de la journée. Pour la soirée de mercredi, ce sera 11 degrés avec des nuages. Jeudi 4 mai, 21 degrés, donc on peut s'attendre à une journée estivale. Jeudi 4 mai, une véritable journée ensoleillée et chaude. C'est ce que nous prédit Environnement Canada. Vendredi, ça redevient nuageux avec de la pluie, 12 degrés, 60% de probabilité d'averse. Et pour le week-end, il semble que le scénario soit assez agréable. Samedi 6 mai, 14 degrés. Dimanche 7 mai, 18 degrés avec du soleil. Donc, le soleil semble être au rendez-vous au cours des prochains jours à mesure que la semaine avancera. Donc, pour la journée de jeudi particulièrement, un maximum de 21 degrés avec du soleil. Pour le moment, on a environ 11 ou 12 degrés dans la grande région de Victoria. Tout dépend de l'endroit exact où vous vous trouvez. Et ce soir, ça descend à 9 degrés avec un peu de pluie. Voilà pour la météo. Et on continue en musique à l'antenne de CILS-FM avec une pièce de Charles-Antoine Gosselin. Et on se retrouve demain, même heure, même fréquence, pour une nouvelle édition de l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info quotidien à l'antenne du 107.9 FM. À bientôt!
L'on se connaisse bien, on se connaît mal. Bien que l'on se veuille bien, on se fait mal. Nos rêves sont tellement précis que l'on ne s'apprécie pas. L'espoir est un lit froid. Un lit froid. Bien que l'on s'aime bien, on s'aime mal. Bien que l'on ne parle
Vous écoutez CILS FM, l'unique radio communautaire francophone et francophile de Colombie-Britannique.